pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de C'est pas du vent. Nous sommes toujours au Salon de l'Agriculture, dans le studio de l'AFD, l'Agence Française de Développement, et du CIRAD, le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement. Aujourd'hui, nous parlons de la dégradation des sols. Et oui, cette fine couche sur laquelle nous marchons est fragile et aujourd'hui menacée. De mauvaises pratiques d'exploitation ont entraîné une forte érosion, une perte de matières organiques et de nutriments. Et les conséquences de cette dégradation se font sentir avec la chute des rendements et ravivent les craintes concernant la sécurité alimentaire. Du coup, les Nations Unies ont décrété cette année 2015 année internationale des sols. Très bien, c'est noté. Mais concrètement, quelles sont les solutions pour lutter contre ce phénomène? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos invités. Patrick Caron, directeur général chargé de la recherche au CIRAD. Cécile Bessou, agronome, docteur en sciences environnementales. Vous travaillez depuis 2010 au CIRAD au sein de l'unité de recherche sur les systèmes de culture pérennes tels que les palmiers à huile, l'EVA ou le caféier. Et monsieur docteur Sanoussi Atta, expert au centre régional Agrimet, le comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel qui regroupe 13 pays d'Afrique de l'Ouest. Il faut donc une meilleure gestion des sols et l'enjeu est de taille. Comment produire un peu plus, on va dire, mais beaucoup mieux, ça c'est sûr, sans épuiser la ressource, Patrick Caron.
Oui, le slogan est joli et mobilisateur. On est tous avec. Ce qu'il y a d'étonnant dans la manière de le formuler, c'est quand même un changement profond dans la manière de voir l'agriculture. Dans les années 90, où on a commencé vraiment à se préoccuper des questions environnementales et sérieusement, l'agriculture était perçue comme le vilain, comme l'ennemi et comme celui. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est ce que vous avez dit dans votre introduction, puisque vous avez parlé de mauvaises pratiques.
C'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on voit dans les revues de presse. Je ne suis pas un spécialiste, mais un journaliste qui s'est documenté, on va dire.
Mais c'est ce qu'on disait, effectivement, et qu'on continue à dire, d'une certaine manière. Mais je pense que ce regard, il évolue. Et en particulier, dans les années 2000, on a commencé à parler de réconciliation entre l'agriculture et l'environnement. Et puis aujourd'hui, on le reprend d'une manière complètement différente. On dit que c'est une partie de la solution. On dit qu'en agissant sur les pratiques, effectivement, on devrait non seulement pouvoir nourrir 9 milliards ou 10 milliards d'habitants, mais on pourrait surtout le faire en tenant compte de la production et de la reproduction de ces ressources naturelles. Alors, effectivement, les chiffres, ils sont alarmistes, mais dans le même temps, et c'est l'enjeu des institutions de recherche pour lesquelles nous travaillons, à travailler à des solutions, à des techniques, et qui, comme je le disais tout à l'heure, permettent, en jouant sur différents facteurs, en jouant sur différentes rubriques, de s'intéresser à ce qui était décrit dans ce superbe reportage comme des cercles vicieux, mais qui sont en fait une conjonction à la fois de facteurs d'origine climatique, de facteurs qui sont liés aux pratiques au sens agronomique du terme, mais également de facteurs qui sont liés à la gestion des sols, au statut foncier, à la manière dont on s'approprie, on utilise et on transmet ce fabuleux capital.
Alors, mauvaise gestion, force est de constater qu'il y a eu une mauvaise gestion, peut-être par manque de connaissances, tout simplement, manque d'éducation dans certains pays. On pourrait peut-être en parler tout de suite, docteur Sanoussi Atta.
Oui, absolument, il y a des mauvaises pratiques. Notamment des pratiques qui consistent à détruire la forêt.
Mais liées à des problèmes de connaissances, ce n'est pas volontaire, c'est de la méconnaissance.
Absolument, c'est de la méconnaissance. Donc c'est d'où la nécessité vraiment de sensibiliser les populations sur les techniques de conservation durable des terres, faire des formations pour encadrer les paysans, les producteurs, pour produire de façon durablement.
Cécile Bessou, vous voulez intervenir?
Oui, je souhaiterais ajouter que il ne s'agit pas non seulement de mauvaises pratiques en soi. Il y a des pratiques qui ont été de bonnes pratiques pendant un certain temps, notamment.
Et qui ne le sont qu'aujourd'hui.
Et qui ne le sont plus parce que la pression sur les ressources augmente du fait de la pression de l'augmentation démographique, des changements de régime alimentaire et d'autres stress liés aux aléas climatiques notamment, qui deviennent de plus en plus sévères. Et donc, par exemple, l'agriculture itinérante en Afrique, mais dans de nombreux contextes aussi tropicaux, a été une agriculture qui était tout à fait efficace pour produire l'alimentation et puis qui était tout à fait durable dans le sens où ensuite le temps laissé à la nature pour se régénérer était suffisant. ces formes de bonnes pratiques ne le sont plus, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas suffisamment de temps, les jachères sont trop courtes pour que le milieu retrouve toutes ses ressources et soit capable de fournir tous ses services.
Patrick Caron.
Oui, à propos du mot méconnaissance, je ne suis pas sûr que je plongerai avec enthousiasme dans ce mot-là.
Pourquoi ?
Et en particulier, enfin, en nous disant que...
Pourtant, on se dira, il y a un aspect de formation des gens, justement. Qui dit formation dit peut-être méconnaissance à un certain moment, non ?
Alors, la connaissance, c'est l'enjeu, le métier noble de la recherche, que de produire des connaissances. Mais quand j'ai réagi au mot méconnaissance, ce que je veux dire par là, c'est que les paysans ont une connaissance absolument fabuleuse.
De leur terre, évidemment.
De leur terre, de leur pratique, de ce que cela génère. Par contre, ils n'ont pas... Cette connaissance peut être enrichie par des savoirs et des connaissances scientifiques. Et dans le même temps, il y a de telles transformations du monde aujourd'hui qu'effectivement, un agriculteur, un éleveur connaît le monde et le connaît très bien, et probablement mieux que beaucoup de scientifiques, le monde dans lequel il évolue, mais ne connaît pas forcément d'autres registres, d'autres catégories, d'autres formes de transformation. Et donc tout l'enjeu est d'arriver à produire de nouvelles connaissances adaptées par fécondation et hybridation des savoirs de la science, des savoirs paysans, et à recomposer cette connaissance utile à la gestion.
Alors le débat est lancé, hein, ça y est, docteur Sanoussi Atta, Cécile Bessou, tout le monde veut intervenir au même moment. D'abord les femmes, allez, Cécile Bessou.
Merci, oui, je suis tout à fait d'accord avec Patrick. Je voulais ajouter qu'il y a deux enjeux par rapport à la connaissance, hein. Donc la connaissance, effectivement, c'est essentiel. Il y a un enjeu de capitalisation des savoir-faire, donc des savoir-faire locaux avant tout. Un collègue chercheur du CIRAD, Pascal Bonnet, me racontait un exemple en Égypte où une longue période de sécheresse de 10 ans a fait que des pratiques qui étaient adaptées pour des conditions moins sèches se sont perdues parce qu'il n'y a pas eu de transmission de ces savoirs locaux, et que quand les conditions climatiques ont été à nouveau favorables, le milieu s'était retrouvé plus résilient. Un terme peut-être dont on discutera, que ces savoirs locaux. Et le deuxième enjeu, du coup, également, donc il y a cet enjeu de capitalisation des savoirs locaux, et il y a l'enjeu, effectivement, de coupler des savoirs locaux avec d'autres sciences, d'intégrer ces savoirs également. Et par rapport à cet enjeu, il faut voir qu'il y a une dimension temporelle qui est importante, parce que des fois, notamment dans le cadre du changement climatique, on peut avoir des conditions qui changent plus rapidement que les systèmes innovants qui vont être issus de ces combinaisons de savoirs locaux et de nouveaux savoirs. Et donc là, il y a un véritable aussi enjeu scientifique de lutte un peu contre le temps pour arriver à mettre en place de nouveaux systèmes efficaces.
Docteur Sanoussi Atta.
Je suis totalement d'accord avec Cécile. C'est vrai que les agriculteurs ont une bonne connaissance de leur milieu. Mais quand je prends l'Afrique de l'Ouest, il y a la pression démographique aussi qui joue. Avec la pression démographique, la gestion des terres est en train d'évoluer. Mais dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a quand même des bonnes pratiques. Donc ce qui est important, effectivement, c'est de capitaliser ces bonnes pratiques, c'est de les partager entre les différentes régions pour voir comment gérer durablement la productivité des sols.
Mais alors les bonnes pratiques, parlons-en justement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donnez-nous des exemples. Je pense par exemple à la rotation des cultures, des choses comme ça.
Absolument. Il y a un ensemble de bonnes pratiques qui existent, hein, dans la zone Afrique de l'Ouest. Il y a la rotation des cultures, il y a l'association aussi des cultures, notamment entre les céréales et les légumineuses, qui contribuent à la fertilité du sol. Il y a l'utilisation efficiente des engrais à travers les microdoses, c'est-à-dire apporter des faibles quantités d'engrais au niveau des cultures pour permettre donc une gestion efficiente. Il y a également toutes les techniques qui visent à conserver l'eau du sol. Il y a la régénération naturelle assistée, qui est une technique qui permet de restaurer également l'environnement. Parce que M. Caron l'a dit, il faut qu'il y ait la reforestation, il faut qu'il y ait des plantations d'arbres pour permettre également donc de régénérer les sols. Donc il y a tout un ensemble de bonnes pratiques qui existent, que le CILS a capitalisé, et ces bonnes pratiques-là, ce serait bien qu'elles soient échangées entre les différents pays.
Patrick Caron, on parlait de l'utilisation des engrais à microdose en Afrique de l'Ouest, en Afrique en général. Que faut-il faire au niveau des engrais ? En fait, faire ça, voici la question.
Ce qui est sûr, si je prends l'Afrique, même si on se trompe toujours quand on parle d'Afrique, parce qu'il y a une telle diversité situation à l'autre.
Voilà. Ça, c'est clair.
Mais si on le prend de manière très très générale, on a l'image d'une agriculture qui est peu productive, qui a peu recours aux intrants.
Parce qu'ils sont deux fois plus chers que dans le reste du monde, en Afrique de l'Ouest notamment. Hein. Du coup, peu d'accès aux intrants.
Peu d'accès aux intrants, et les acteurs de la profession agricole qui se disent à juste titre qu'il n'y a absolument aucune raison que les modèles de développement qui étaient ceux des pays de l'OCDE ne leur soient pas accessibles. Et dans le même temps, quand on regarde le besoin d'une transition, ce que Cécile disait tout à l'heure, produire, ou ce que vous avez dit, produire plus, mieux, et quand on regarde les enjeux qu'il y a derrière devant cette agriculture et le besoin d'une transition qui prend en compte les questions environnementales à juste titre, s'exprime un débat très très fort, en particulier sur le continent africain et sur le sol africain, sur les différentes voies à promouvoir pour cette intensification écologique. C'est-à-dire comment on accompagne par une mobilisation des processus écologiques, de nouvelles manières de produire, et pas forcément en suivant le même modèle que celui qui a été utilisé dans les pays de l'OCDE. Pour prendre une image vraiment très très simple, je dirais que l'Afrique n'est pas passée par le téléphone filaire en passant au téléphone portable, et a développé le téléphone portable sur l'ensemble du continent sans suivre nécessairement le même voie. Et on peut, et c'est tout l'enjeu à venir, on peut fortement imaginer et stimuler ce qui serait une transition de l'agriculture africaine, qui aurait bien évidemment recours aux intrants, mais peut-être pas sur le même modèle que dans les pays de l'OCDE.
Cécile Bessou, vous vouliez intervenir.
Oui, pour compléter ce que disait Patrick, donc les engrais sont un enjeu majeur en agriculture puisqu'ils sont la principale source d'impacts environnementaux. Et quand on parlait tout à l'heure d'approche systémique, la compréhension du fonctionnement du sol, c'est justement aussi comprendre que le sol peut être un réservoir de nutriments, mais c'est d'abord avant tout un milieu vivant. Donc les micro-organismes utilisent eux-mêmes ces nutriments. Et ce sur quoi on travaille, du coup, c'est de comprendre ces phénomènes des micro-organismes pour optimiser la fertilisation couplée d'engrais synthétiques et d'engrais organiques. Donc, ce qui est essentiel, notamment, par exemple, dans certains pays africains, c'est d'avoir une approche systémique qui nous permet d'intégrer les systèmes de production agricole et de production d'élevage pour pouvoir recycler la matière organique pour avoir des apports d'engrais qui soient des apports plus complexes, plus approprié à la complexité du sol pour avoir des systèmes plus rentables sans dégrader le sol.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr.
C'est pas du vent sur RFI, nous sommes toujours au Salon de l'agriculture à Paris. Aujourd'hui, nous parlons de la dégradation des terres et des solutions pour sortir de l'impasse. Et certaines de ces solutions viennent du Burkina Faso, de la province de la Niania, à l'est du pays. On les appelle le Zaoula 2001. Vous en parliez, docteur Sanoussi Atta. Les explications avec notre reporter David Bachet, qui a suivi un programme d'action contre la faim avec des agriculteurs burkinabés.
Moi, c'est Adolphe Lankwande. Je suis le responsable du programme au niveau de Mani pour ACF.
Ce que vous êtes en train de nous montrer, c'est une des techniques qui est utilisée ici pour restaurer les sols.
Oui, c'est restaurer les sols afin de pouvoir augmenter le rendement agricole. Et la technique du ZAI consiste à faire en quinconce des petits pots dans lesquels on fait un amendement afin de pouvoir rendre encore le sol plus fertile.
C'est-à-dire, là, on est sur un champ, on voit qu'il est parsemé de trous.
De trous, ouais. Effectivement, vous voyez le système.
Une quinzaine, vingtaine de centimètres.
C'est en fonction de la spéculation que vous voulez. Et vous regardez en fonction de la pente. Parce que quand il pleut, l'eau a un certain ruissellement. Et c'est en fonction de ce ruissellement-là, on fait les pots en fonction de ça pour qu'au moins ce soit genre de petits impluviums.
Ça veut dire qu'elle s'écoule, mais elle reste continue dans les trous qui ont été creusés.
Et maintenant, avec l'amendement qu'il y a, donc ça permet au sol.
Qu'est-ce que c'est l'amendement ?
L'amendement, c'est à base de fosses fumières. On fait de la fumure organique qu'on met dans les pots.
Une espèce de compost qui est mise au fond des trous.
Au fond des trous.
Dans lesquels se déverse l'eau.
Se déverse l'eau.
Et ça, c'est une technique de base, mais qui n'était pas utilisée avant ?
Ce n'était pas utilisé avant. Et c'est une technique qu'on vient de commencer au niveau de ce village, il y a 3 ans de cela. Et on continue avec cette même technique jusqu'à aujourd'hui.
Ça, ce sont des techniques qui sont utilisées ailleurs, qui sont des techniques traditionnelles, ou c'est vous qui avez mis ça au point ?
Ce n'est pas une technique traditionnelle, c'est une technique un peu améliorée.
Et qu'est-ce que ça permet de faire ? Ça permet de rendre des terres beaucoup plus
fertiles, ça c'est plus un, et au sol d'avoir un peu d'humidité pendant longtemps. De conserver l'humidité pendant longtemps.
C'est quelque chose qui peut être facilement duplicable, réutilisable, approprié par tous les paysans.
Oui, par tous les paysans, effectivement. Tout le monde peut le faire, puisque ça ne demande pas beaucoup de matériel. C'est juste une pioche, et puis c'est tout.
Et c'est très, très efficace. Vous auriez donné une échelle pour qu'on mesure à quel point ça a servi ?
L'an passé, on a fait des champs tests, ou des terrains sur lesquels aucune technique n'a été appliquée, aucun amendement n'a été fait, et après le rendement, on s'est rendu compte que sur les terrains sur lesquels nous devons appliquer les techniques de Zaï, le gars gagnait encore le double de ce qui est gagné sur un terrain qui n'a pas été entretenu.
D'accord.
Donc après le Zaï, nous avons les demi-lunes. Et c'est pratiquement les mêmes techniques.
La demi-lune, c'est une espèce de digue en forme de demi-lune qui a été créée avec la terre. Donc l'eau qui s'écoule est retenue par cette forme de demi-lune.
Voilà.
Et ça, qu'est-ce que ça apporte de différent par rapport aux Zaï ?
Au niveau du rendement, on gagne plus sur les demi-lunes que sur les ailes. Mais les demi-lunes sont pratiquées sur des terres qui sont plus encotées que les terres sur lesquelles nous faisons les ailes.
Où la côte est plus prononcée.
Et la côte est plus prononcée. Et la demi-lune, quand vous la faites comme ça, elle est encore plus bénéfique parce que lorsque vous réalisez une demi-lune comme ça, vous avez 2 ans d'exploitation. Pendant que les ailes, chaque année, il faut répéter.
Refaire les trous chaque année. Et pourquoi est-ce que c'était nécessaire d'utiliser ces techniques d'irrigation, améliorer des sols ? C'est parce qu'ici, c'est vraiment trop aride ?
Puisque c'est des terrains qu'on ne pouvait pas utiliser si ce n'est pas la technique qui vient de permettre ça. On ne pouvait pas utiliser ces terrains-là. D'abord, vous voyez, elle est très encroûtée. Sur un sol pareil, il n'y a plus rien qui puisse pousser. Même l'herbe ne poussait plus. Au bout de 2 ans, vous allez voir que même l'herbe va repousser.
Vous dites que ça ne pousse plus. Ça veut dire qu'à une certaine époque, ça poussait ?
Oui, à une certaine époque, ça poussait, puisque en ce moment, les gens cultivaient dessus. Lorsque maintenant le sol était tellement fatigué, ils ont abandonné. Maintenant, comme il n'y a plus de sol, la population s'est augmentée. On a oublié de revenir sur ces terrains-là pour pouvoir les récupérer, puisqu'on ne peut plus aller ailleurs. Dans le temps, on avait le choix de cette terre est fatiguée, je la laisse pour 2 ans, 3 ans, je continue ailleurs. Mais maintenant, ce n'est plus possible.
Extrait d'un reportage de David Baché au Burkina Faso. Alors, le Zaï et la demi-lune, vous en parliez, docteur Sanusi Atta. Est-ce que ces techniques sont extrêmement développées en Afrique de l'Ouest ou uniquement au Burkina Faso ?
Ce sont des techniques qui sont développées en Afrique de l'Ouest, notamment dans la partie sahélienne, parce que ce sont des techniques qui sont facilement adoptables par les paysans. Et l'avantage de ces techniques-là, c'est qu'on peut passer d'un rendement zéro à un rendement de 200 à 500 kg à l'hectare l'année d'après. Donc ça permet quand même de jouer un rôle important dans la sécurité alimentaire.
Patrick Caron parlait de méconnaissance. Il y a aussi un certain savoir-faire, ancestral peut-être pas, mais qui est là, et voilà, propre à un pays avec une situation particulière. Ça, c'est le genre de technique qu'il faut développer suivant les régions dans lesquelles on se trouve, évidemment.
Oui, complètement. Ancestral, je pense qu'on peut le dire. Je ne veux pas dire que l'agriculture est la plus vieille profession du monde, mais si, quand même. Et du coup, bien avant que les institutions modernes de recherche existaient, les paysans ont su innover, penser, regarder, apprendre, transmettre. Même si effectivement, comme Zazie le disait tout à l'heure, il y a des failles dans la transmission et que le rôle de la recherche peut justement être de regarder avec un regard scientifique, de compléter, d'innover sur d'autres aspects. Et il y a bien ce métissage. Juste un mot pour vous dire, je pense que la question se pose de manière crue et plus aiguë encore dans les zones arides, mais elle ne concerne pas que les zones arides non plus. Et ce processus de dégradation et désertification, il touche bien l'ensemble des écosystèmes à différents titres et en lien avec les processus qu'on a décrits. On a souvent tendance à lier désert et désertification. La désertification est également un processus qui touche l'ensemble des écosystèmes aujourd'hui et qui nous intéresse à bien des égards.
Sanoussi Atta, vous vouliez intervenir?
Oui, pour compléter ce qu'il dit, c'est vrai que je parlais tantôt de la zone sahélienne, mais même au niveau des zones côtières, on a aussi un autre phénomène d'érosion, c'est l'érosion côtière. Avec l'élévation du niveau de la mer, vous avez une augmentation de la salinité qui rend donc certaines terres inaptes à l'activité agricole. C'est un phénomène qui est de plus en plus développé au niveau des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo.
Alors, un invité nous a rejoint, c'est monsieur Ndiawa Diop, président de la Fédération des périmètres autorégérés au Sénégal et producteur de riz également. Bonjour monsieur Ndiawa Diop.
Bonjour.
Alors, quand on parle de dégradation des sols, parlez-nous concrètement de votre situation, vous au Sénégal, en tant que producteur de riz. Et là, je crois qu'il est question aussi de salinisation des sols.
Merci. Moi, je suis Ndiawa Diop, je suis producteur de riz dans la vallée du fleuve Sénégal, où on pratique l'irrigation. Là aussi, c'est une zone assez salée et que si on aménage et qu'il n'y a pas de drainage, souvent au bout de quelques années, on perd des rendements. Mais moi, là où je suis dans les grands périmètres avec une maîtrise totale de l'eau, avec un système de drainage performant qui fait que vraiment on a beaucoup de chance pour que nos terres ne soient pas envahies par le sel. Mais à côté, il y a des gens qui ont des exploitations privées avec des aménagements sommaires, sans drainage. Ces gens-là, au bout de 3 ans, vraiment, ils commencent à perdre des récoltes. Ce qui veut dire que la dégradation des sols, on les trouve un peu partout. Et surtout, nous, on est dans la basse vallée, avec des sols un peu salés. Mais si on remonte pour la haute vallée, là, le problème est moins visible.
Mais est-ce que l'État sénégalais est conscient des problèmes et vous êtes, vous, les agriculteurs, les producteurs de riz, entre autres?
Oui, l'État nous aide parce qu'il y a un important programme de reprofilage des adducteurs d'eau. Il y a aussi un important programme pour vraiment connecter les drains, jeter les drains directement à la mer. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de sols qu'on avait abandonnés, on est en train de les reprendre. Ensuite, que nous sommes actuellement au Sénégal, à l'ère de l'autosuffisance en riz en 2017, ce qui veut dire que l'État est en train de mettre des moyens colossaux pour qu'en 2017, le Sénégal puisse s'arrêter d'importer du riz dans les pays asiatiques.
Patrick Caronski, il y a des cultures qu'il faut favoriser. Je pense au nibé, par exemple, la cornie, un haricot qui a une forte valeur nutritionnelle et qui dépose naturellement de l'azote dans le sol. Idem pour le soja. Voilà. Est-ce qu'il faut, en Afrique de l'Ouest notamment, se focaliser sur certaines cultures?
Alors, il y a un principe qui est très fort dans tout ce qu'on dit et dans ce terme d'intensification écologique, qui est de jouer sur la diversité des espèces dans une même parcelle ou dans un paysage. Comment agence-t-on la diversité pour justement compléter, exploiter au mieux les différents horizons du sol et leur composition, éventuellement les enrichir, comme vous l'avez signalé, avec des légumineuses qui sont capables de favoriser la fixation d'azote dans le sol. Comment on joue également sur les microclimats que l'on peut constituer au niveau de la parcelle, en termes d'ombrage, en termes de température, en termes d'humidité. Comment on recrée d'une certaine manière, grâce à la diversité, un petit écosystème qui est capable à la fois de produire plus et dans le même temps d'entretenir la fertilité du sol. Donc derrière ce maître mot de la diversité et de l'agencement de la diversité, effectivement, dans une région où on aura tendance à privilégier telle ou telle espèce en complément de celle qui est généralement produite.
C'est ça, il y a toute une sélection à faire au niveau des variétés selon les sols, hein, Cécile Blessou. Ça, c'est un de vos axes de réflexion, de travail au CIRAD.
Oui, tout à fait, oui. Il s'agit en effet de choisir des espèces, de les compiler, mais également par rapport à certaines problématiques telles des résistances à la sécheresse, des résistances à la salinité. Le CIRAD travaille sur des sélections variétales en essayant de coupler des variétés qui ont des gènes de tolérance à ces stress, donc des variétés qui peuvent venir de différents endroits. Et donc là, on a vraiment une approche système où on a des variétés tolérantes et diverses espèces qui sont combinées pour maximiser l'efficacité des systèmes. Souvent, la diversité est un levier de lutte contre les risques et la vulnérabilité.
Alors, on arrive déjà au terme de cette émission. Je le disais, hein, l'année 2015, année internationale des sols. Est-ce que, selon vous, ça peut faire bouger les lignes, changer quelque chose? Soyez honnête, Patrick Caron.
Alors, je suis résolument optimiste d'habitude. Donc même en étant honnête, je dirais oui. Ce qu'on observe là, c'est une fantastique mobilisation partout et à tous les niveaux autour des questions d'environnement. Pour autant, elle nous pose des questions dramatiques. Donc entre cet optimisme que je lis à la mobilisation que je vois un peu partout du local au global et le côté dramatique des questions qui sont posées, voilà, mobilisons-nous. Oui, j'ai envie d'y croire.
Vous êtes optimiste, Cécile Bessot?
Oui.
Très, très brièvement.
Oui, tout à fait. Comme Patrick, j'adhère complètement. Soyons optimistes et agissons.
Docteur Sanusi Atta.
Je suis optimiste aussi, d'autant plus que dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, on a des cadres stratégiques de gestion durable des terres qui sont déjà élaborés. Donc au niveau du politique, il y a quand même un engagement fort. Je pense que la question qui se pose, c'est la question toujours essentielle de financement. Mais je pense qu'il faut que les choses bougent.
Diawar Diop, je suis désolé, on ne vous a pas énormément entendu. Malheureusement, vous êtes arrivé un peu tardivement. Un dernier mot de conclusion, tiens. Est-ce que vous aussi, vous êtes optimiste,
moi,
comme nos petits camarades ici présents?
Je le suis, d'autant plus qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'il faut travailler avec le sol, sinon ça va poser énormément de problèmes. Donc, n'ayant pas de choix, on serait obligé de travailler pour que cela se réussisse.
Et on reconnaît toute la sagesse sénégalaise. On n'a pas le choix, c'est bien vrai. Merci à tous les quatre d'être passés dans ce studio. C'est déjà la fin de cette émission réalisée par François Porcheron. À la technique, c'était Bertrand Éclair aujourd'hui. Encore merci à l'AFD, l'Agence française de développement, et du CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique, pour le développement, de nous avoir accueillis dans ce studio au Salon de l'agriculture à Paris. La semaine prochaine, vous retrouverez Anne-Cécile Bras derrière ce micro, mais dans nos locaux d'ici les Moulineaux. Très bonne journée à tous. Tout de suite, un nouveau journal sur la Radio du Monde.